Est-ce que le golem de Prague, c'est vrai, oui ou non? Je pense que non. Les gens sérieux. Ah, on va passer sur un cours Kabbalah Maasit. Allez, c'est sympa, ça fait transpirer les gens. Ouais. Le Maharal, il s'amuse à faire ça.
Tous les trucs qui a marqué, c'est qu'il y a un fond.
Je sais pas qui a raconté ça, c'est-à-dire aucun bouquin sérieux s'est marqué. Vous voulez un cours comme ça, un peu mystique? La question de Akiva. Est-ce que on raconte au nom de Maharal de Prague, Maharal, c'est le Rachetevot acrostiche de Moren ou Harav Liva. Liva. Liva, c'est l'œuvre, c'est un lion. Lion, l'œuvre, Liva. Il s'appelle Yehuda, en fait. Mais beaucoup de gens, encore en France aujourd'hui, mais aussi en Pologne à l'époque, traduisaient le nom hébreu en. Donc Yehuda, vu que c'est marqué lion à propos de Yehuda, donc on l'appelle comme Léon. Tous les Léons que tu as en France, ils sont Yehuda en hébreu. Donc c'est Maharal de Prague. Était un grand sage d'Israël, qui, bien qu'on ne le voit pas clairement dans ses écrits, mais vu qu'il part très profond, devait sûrement connaître bien la Kabbalah, on raconte qu'il a créé un golem. Qu'est-ce que c'est qu'un golem? Golem signifie en hébreu une forme brute. Ça veut dire qu'il a créé un être humain, mais un peu brut, ça veut dire qu'il lui manquait la parole. Une sorte de robot qui comprend ce qu'on lui dit, mais ne peut pas parler. À qui a posé la question, est-ce que je pense que c'est vrai? Réponse, je pense que c'est pas vrai. Parce que dans aucun livre sérieux on en parle. C'est une légende qui se balade comme ça. Pour la bonne raison qu'il est extrêmement interdit, d'après la Torah, de faire de la Kabbalah Maasit. Qu'est-ce que la Kabbalah? La Kabbalah, contrairement à ce que les gens croient, il y a une sorte d'aura magique autour de la Kabbalah, terrible, qui font croire que lorsqu'on dit que c'est un kabbaliste, déjà, il a des pouvoirs surnaturels, ce qui n'est pas du tout le cas. La Kabbalah, ce sont des livres qui parlent de la construction, l'architecture des mondes divins. C'est relativement ennuyeux, ça n'a aucun impact direct avec nous parce qu'on parle de choses qu'on ne comprend pas, et ça n'a surtout aucun effet de te rendre à cause de cela un homme qui a des pouvoirs spéciaux. Mais dans le monde, surtout dans le monde sfarad, et spécialement dans le monde français, qui est sfarad et très ignare d'habitude, je m'excuse pour les Français qui nous écoutent, mais d'habitude, bon, il n'y a pas beaucoup de Torah. Il y a de la Torah en France, mais il n'y a pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de foi. On aime bien un peu ce qui est un peu kabbalistique, mystique, magique, surnaturel, c'est sympa. Je vais vous en parler maintenant, vous allez voir tous les gens, tout tic, Et j'ai quelques Ashkenaz, quand ils écoutent ça, ils sont entre rouge et blanc. Rouge un peu de colère, blanc, ça les intéresse absolument pas. D'accord, tu vois très bien les mentalités. Donc, il est faux de croire qu'un kabbaliste a des pouvoirs, c'est archi faux. Les pouvoirs proviennent de la sainteté. On peut être quelqu'un de très saint, ayant des pouvoirs, sans avoir jamais de sa vie ouvert un bouquin de Kabbalah. Et d'habitude, ceux à propos desquels on sait qu'ils ont le bouquin de Kabbalah, ils n'ont aucun pouvoir. C'est bien simple, je ne connais aucun kabbaliste qui a des pouvoirs. Je connais beaucoup de kabbalistes, aucun a des pouvoirs. Il y a beaucoup de faux sur le marché. Oh là là, des faux qui font de l'argent, des faux qui font carrément des averrotes avec des femmes, des escrocs, c'en est bourré. Donc la Kabbalah Maasit existe, mais il est absolument interdit de la faire. Parce que de quel droit le Maharal de Prague l'aurait créé maintenant? Un golem, c'est interdit. Il est vrai que le Talmud parle de création, d'êtres vivants, d'êtres humains, mais qui n'ont pas la parole. On me raconte que tout d'un coup, je crois que c'est Rava, du coup il y a un type qui est venu, et Rava lui parle, et le type ne répond pas. Il le reparle, il ne répond pas. Ah, je comprends, ah, tu es un de ceux que nos copains ont, les amis ont créé. Il y a deux rabbins qui, chaque veille de Shabbat, créent un mouton, l'Erevot Shabbat Kodesh. Il y a dans les responsables du Rav Frida, ils proposent, est-ce qu'on a le droit maintenant de manger un mouton qui a été créé comme ça par Sefer Yetzirah? Sefer Yetzirah, c'est le livre de la création. C'est un livre de mystique juive dans lequel il semblerait qu'il y a les techniques de création. Je ne pense pas, parce que de nouveau, quand on lit, il n'y a rien de ce type-là, qu'on attribue à Abraham Avinu. On appelle néanmoins, on dit que voilà, créer des choses, créer des êtres ou faire des miracles avec Sefer Yetzirah, avec le livre de la création. Donc, on dit que à la question que Rav le pose de Rav Frida, est-ce qu'un mouton qui a été créé par les livres de la création, donc avec des noms saints, est-ce qu'on doit l'égorger? On peut le manger comme ça? Question. Pour la question, est-ce que maintenant quelqu'un qui a tué un être qui a été créé comme ça, est-ce qu'il est Hayav Mita? Ou si un être humain, un golem qui a été tué un être humain, hein, est-ce que le golem il est Hayav Mita? Est-ce qu'il est peine capitale? Bon, il y a des questions-réponses intéressantes comme ça. Donc il y a une réalité pareille qui existe et qui a existé. C'est bon, elle date de l'époque de la Mishnah, de la Gemara, que c'était des géants, pour vous dire un peu de quoi on parle. Rav, donc vous voyez tous les jours dans la Gemara, d'accord? Qui était Rav? Rav, c'est marqué que ses élèves ont pris, quand il est décédé, ont pris sur eux de faire les chumrot qu'a fait Rav. Rav avait 10 chumrot, comme c'est marqué dans Tshuvat HaGeonim. 10 chumrot sur lui, 10 choses, mesures de piété non obligatoires qu'il a pris sur lui. Et ça, ses élèves, qui c'étaient des géants en Torah, ont dit on peut pas, c'est trop dur. Chacun, on va prendre sur nous une de ces chumrot. Rav Sheshat, il a pris sur lui la chumra de Rav de jamais regarder de sa vie plus loin que 2 mètres. Tu tiens une demi-heure comme ça? Et ça, c'est une des 10 chumrot de Rav. Donc, jamais dire une parole vaine de sa vie. Et c'est tenir une demi-heure sans dire une parole vaine. Ça, c'est 2 des 10. Rav Sheshat a eu tellement peur qu'il ne tiendrait pas, il s'est rendu aveugle. Il s'est aveuglé lui-même. On n'a pas le droit de faire une chose pareille. Mais pour garder la chumra de Rav, et ça menait tellement de kedusha dans le monde, il a fait quand même. Et il avait raison de le faire. De peur qu'une fois dans ma vie, je vais regarder plus loin que 2 mètres. Tout le monde, de quoi on parle? Alors, des gens qui sont comme ça. Il crée un être humain. Ah oui, il crée un être humain, c'est pas un problème, il est au niveau. Et s'il y a j'imagine qu'il y avait une nécessité. Ok. Bon, on parle de ces gens. Un jour, un sage d'Israël m'a dit que Dieu veut ça. Dieu veut qu'on puisse être comme lui et créer. Mais celui qui est comme lui. La Torah dit Kdoshim tiyu ki kadosh ani Hashem. Soyez saints car je suis moi-même saint. Chazal disent, est-ce qu'on peut être saint comme Dieu? Non, Kikadoshani, je suis quand même plus saint que vous. Kdushatil est mal, mais Kdushatrem. Ma Kdusha est plus grande que la vôtre. T'avais une sakadatine, t'avais une. Comment on dit ça en français, une sakadatine? Une hypothèse de base, de base que tu aurais pu être aussi saint que Dieu. Il faut qu'un verset vienne. Non, ça, je suis quand même plus que toi. T'imagines? C'est-à-dire. Il y avait des niveaux de sainteté complètement effarants. Un type comme ça, ok, ça va. Rav, quand il a quitté Eretz Israël, il est allé en Babylonie, Shmuel était au bord du fleuve, il a vu, il y a un grand homme ici, l'eau est trouble, il y a un grand homme qui vient d'arriver. Pourquoi je vois l'eau est trouble? Pourquoi? L'eau a fait un mur autour de Rav parce qu'il devait uriner. Et c'est pas pudique d'uriner comme ça au bord du fleuve, donc l'eau, bon, va uriner toi au bord du fleuve, et moi, et tout, et Gan de Vilna. Ça n'a rien à voir. Je parlais maintenant du Gan de Vilna, qui c'était? Son élève, le Nefesh Haim, le Rabbi Haim de Volozhin. Shabbat, toutes les semaines, il parlait yiddish. Shabbat, il parlait Shana Kodesh, il parlait en hébreu. Et un jour, un de ses élèves lui demande, Shabbat, dites-moi, parlez-nous du Gaon. Est-ce que le Gaon était égal, par exemple, à Nachmanide, le Ramban? Le Rabbi Haim de Volozhin était tellement choqué par la question qu'il a répondu en yiddish. Quoi? Avec tout ce que j'adule, et moi, je sais qui était le Gaon de Vilna. Ras et Shalom. Comment comparer? Le Ramban. Peut-être que mon Rav, le Gaon de Vilna, était peut-être égal à un élève de l'élève du Ramban. De quoi on parle? Et le Ramban, par rapport au Géonim, c'est rien. Et les Géonim, par rapport au Savoraim, c'est rien. Savoraim, par rapport à Moraim, c'est rien. Ah, on parle de quoi? C'est des niveaux inimaginables. Donc ces gens-là, qui étaient au niveau d'être comme Dieu et créé, vas-y, crée tout ce que tu veux, des moutons, des hommes, amuse-toi. Déjà les Tanaïm disent, c'est marqué que du temps de Rabbi Yuda, Rabbi Akiva, je crois que c'est Rabbi Akiva, Rabbi Yuda, je ne sais plus qui était avant, qui était après. Il y a 2 Tanaïm, un qui dit, nous, à l'époque d'Rabbi Yuda, lorsqu'il y avait une ta'anit, vous avez un jeûne pour prier à Dieu, ils enlevaient les chaussures pour se mettre par terre comme en deuil, pour qu'il pleuve. Un qui enlevait la chaussure déjà, l'orage a pu tomber. Et nous, on se met pieds nus et on hurle et il n'y a rien qui se passe. À l'époque des Tanaïm. Pourquoi? Vous avez mis sur route Nefesh. Il se donnait entièrement à Dieu. Ça, c'est le niveau, la proximité de Dieu. Ça, je parle des Tanaïm. Après, tu me parles des Amoraïm. Tu me dis, qu'est-ce qu'il y avait? Essaye de tenir une demi-heure. Les Goïm, les élèves du Rav n'avaient pas à faire, c'est du Khumrod de Rav. Nous, qu'est-ce qu'on est par rapport à Baba Saleh, par rapport au Khavetz Raïm? Rien de rien. Et eux, par rapport à ceux d'avant, c'est encore moins. Il y a une descente, pas comme ça, elle est comme ça la descente. On ne peut même pas imaginer ce que c'était. De quoi? Pas la connaissance de la Torah, la proximité de Dieu. Mais qui elle dépend de quoi? D'une sainteté. Hein? T'as pas une seconde où t'es pas en situation de ira, de crainte. Regarde, le Ramban, de crainte de Dieu. Le Ramban a écrit une lettre à son fils. Il lui dit, quand tu parles à quelqu'un, jamais ne lève les yeux vers lui. Parce qu'il faut que tu te comportes avec humilité. T'arrives-toi à faire une chose pareille? 10 secondes. Si tu parles à quelqu'un, lui parler comme ça. Parce que c'est trop insolent de le regarder. Avec humilité. C'est pas notre degré. C'était il y a 800 ans. C'est pas notre degré. Il faut arrêter. De quoi on parle? On parle d'anges. C'est des degrés énormes. Énormes. Donc, ils ont Kabbalah Majité, ils faisaient. Aujourd'hui, Chassé Shalom, c'est très grave. Rabbi Haim Vital, qui a écrit toute la Kabbalah. Toute la Kabbalah, aujourd'hui, suivie par les Kabbalistes, c'est Rabbi Haim Vital. OK? Il a appris la Kabbalah de son maître pendant 22 mois. Comment il a fait? Il n'arrivait pas. Son maître l'a pris au lac de Tibériade, a rappelé un nom de Dieu, et a fait amener la source, le puits de Myriam. Et celui qui boit du puits de Myriam, alors il a une mémoire, il n'oublie plus rien. Alors il a bu un peu, tac, et dès ce jour-là, il n'oubliait plus rien. Et ce qu'il a pris en 22 mois, après il a écrit pendant 50 ans. Et dommage qu'il n'ait pas vécu plus longtemps, parce qu'il manque encore. C'est pas total. Ça manque. À la fin de sa vie, il habitait à Yerushalayim, ici. Le sultan se balade un beau jour sur l'esplanade du temple, la mosquée d'Omar. Il entend un bruit, un courant d'eau. Il appelle le cheikh là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, il faut appeler, on demande les Yahouds, les Juifs, eux, ils savent ce qu'il y a ici. C'est un truc, là. Bon, amène le cheikh des Yahouds. On amène le Rav, Rabbi Haim Vital. Si tu en lui dis, c'est quoi cette eau-là que j'entends? Rabbi Haim, vous ne voulez pas lui dire. Il faut que je sois avec Mashiach, l'eau, le royauté, tout ça. Il lui dit, si demain, tu ne vois pas ce qu'il y a cette eau-là, je te coupe la tête. Rabbi Haim Vital rentre à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bambou, il met le nom du truc, abracadabra, se retrouve à Damas. Et comme ça, il s'est enfui. Il a fait Kfitat Shem pour sauver sa vie. Il pouvait. Celui qui dévoile ces noms-là, c'est lui-même. Il peut le faire. D'accord? C'est un grand, grand. La même nuit, son rave, Rabben Henri, il vient en rêve, lui dit, de quel droit tu fais une chose pareille? Tu dis ces noms de Dieu? Si déjà tu te permets de faire une chose pareille, d'utiliser le nom de Dieu, qu'est-ce que tu utilises le nom de Dieu? Tu utilises Dieu, viens, fais la commission pour moi. Hachem, il vient, les noms de Dieu, c'est pas des blagues. Si déjà tu as fait ça, t'aurais rappelé aussi un des noms de Dieu que je t'ai enseigné, et la source aurait jailli, et ma chair serait venue. Donc, même des gens de niveau énorme, tu peux pas toucher ça. J'ai un cousin qui étudie la Kabbalah. Un bon garçon, un avraire sérieux. J'ai un Rav qui est sérieux aussi, un vrai kabbaliste, caché, sans pouvoir, un vrai de vrai. Comment je sais qu'il est vrai de vrai? Parce que le Rav Ben Tzion Abashoul a dit qu'il est bon, on peut compter sur lui. Si le Rav Ben Tzion il a dit, moi je pose la question au Rav Ben Tzion Abashoul moi-même. C'était à Pourim, les cours de Rav. C'est marqué, à Pourim, tout celui qui tend la main, on lui donne. Alors c'est marqué, c'est à son niveau du tchat. Tous les pauvres qui demandent de l'argent, il faut le donner à Pourim, il faut donner de l'argent aux pauvres. Mais on dit en drache, on est allégorique, tout celui qui tend la main vers Dieu, on lui donne. C'est un jour comme Yom, plus grand que Yom Kippour. D'un côté aussi, on peut dire ça au Rav, tout celui, Kvodara, je dis comme ça, dites-moi, chez qui aujourd'hui il y a la vraie Kabbalah? La vraie Kabbalah. Il se tait. Et moi je commence à lui dire, tous les noms que je connais, et le Rav machin, et le Rav machin, et le Rav machin, il me dit rien. Du Kvodara, Pourim, Kola Pochette, Notimia, Kola Pochette, Notimia, tout celui, dites-moi un nom. Il m'a dit, le Rav Sasson Mizrahi. À l'époque, il était vivant. Rav Sasson Mizrahi, illustre inconnu, vous connaissez? Personne ne connaît. Dans le monde des férus Kabbalah, ils savent. C'est un vrai. C'est un bon. C'est un rabbin qui avait une petite barbe, comme la mienne, qui travaillait le jour. Il corrigeait les mezouzot à l'État. La nuit, il étudiait. Et à la synagogue, il se mettait à la dernière place. Et quand on demandait une bracha, il disait, excusez-moi, il partait. D'accord? Humble. Caché. Vrai. 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 Pourquoi je raconte son histoire à lui? Donc, mon cousin de ma femme, Rabbi Sonn a dit sur son Rav, c'est pas le même, c'est un autre que je connais pas, mais il a dit, c'est un bon, on peut compter là-dessus. Il m'a dit, il a une fille anormale. Pourquoi? Parce qu'quand il était jeune, il n'a pas résisté au Yetzirah de faire un peu de Kabbalah. Il a fait jouer un peu Kabbalah Maasit. Directement, tac. Terrible! Terrible! La Kabbalah, la vraie Kabbalah, c'est étudier la construction des mondes divins. Comment? Depuis Dieu jusqu'à nous, ça, il y a une construction, il y a une sorte de tuyauterie, d'accord, céleste. T'as des tuyaux, t'as, comment tout est construit. Voilà. Kabbalah Maasit, c'est commencer maintenant à rappeler le nom de ces anges, de ces choses-là, et les faire agir. Et de quel droit, petit moustique puant, tu vas faire agir des anges? C'est interdit. Interdit. Hein? C'est des halakhot. Ah, tu veux dire le Zohar. Le Zohar, il donne... Ou, hein? Zohar, c'est Kabbalah. Et Rabbi Nari aussi, il dit que d'après la Kabbalah, voilà, il y a certaines choses qui sont... Comme ça, l'halakha a été fixée pour le commun du peuple. Dans des gens qui veulent être plus pieux, alors la Kabbalah te donne maintenant des directions, des choses qui sont bien de faire au niveau de l'halakha, de l'action. Hein? On va dire qu'il y a une tuyauterie qui est basique, qui concerne notre monde. Maintenant, quelqu'un qui veut être en accord avec les mondes plus hauts, alors il commence à faire d'autres choses. Par exemple, donne-moi un truc de Kabbalah qui est bien de faire. Voilà, très bien. Il y a une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam. Quel est l'ordre des parchemins qu'il y a dans les tefillin? Rashi dit Kadish, Kadesh Vehaya, Shema Vehaya. Rabbeinu Tam dit Kadesh Vehaya, Vehaya Shema. Les deux dernières sont inversées. Qui a raison? L'Alacha, on fait comme Rashi. C'est bien aussi de porter comme Rabbeinu Tam. Maintenant, beaucoup de gens achètent d'autres filines, c'est bien, les Sfaradim, c'est bien après le mariage, de mettre Rashi. Après, quand tu te maries, tu mets Rashi, au milieu de la prière, après la prière, tu mets Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam arrive, vient et dit, les deux sont vrais. Et il faut mettre les deux ensemble. Après le pshat, interdit. Parce que tu fais quelqu'un qui met deux mezuzot, il connaît un interdit de bal tosif, de ne pas rajouter au mitzvot. Parce qu'il met deux tefilines, il fait un interdit de la Torah, lave de roi, comment je du porc, bal tosif. Donc voilà, Kabbalah dit comme si, et le pshat il dit autrement. Et là, Kabbalah dit, si tu ne fais pas comme ça, tout ton tikkun, le kirat shema, tout ça, il ne passe pas. Ça, c'est tordu. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met les deux. Mais on fait un tenaille, on fait une condition, on dit comme ça. Si d'après la vérité c'est Rashi qui a raison, alors je mets le tefillin de Rashi et ceux d'Rabbeinu Tam, c'est rien. Donc je mets un seul tefillin. Si le vrai c'est Rabbeinu Tam et Rashi c'est rien, alors la mitzvah elle fait avec celle de Rabbeinu Tam et le Rashi que je porte c'est des lanières de cuir. Et si la vérité c'est que les deux sont vrais, il faut mettre les deux, alors je mets les deux. Comme ça je suis ok. C'est comme ça qu'il faut faire. Bah, c'est rajouter sur ce qu'il faut. Je lui dis c'est comme ça qu'il faut. Je ne connais pas certains, parce qu'il y en a qui disent pas comme ça, alors on fait un tenaille.
Pourquoi ça fait qu'il y a deux niveaux d'alakha? Vous avez dit que l'alakha...
Il y a pour le commun du peuple, il y a pour les gens qui veulent plus de piété, plus de proximité de Dieu. Elle n'est pas faite pour toutes.
Il y a une vérité, il y a une seule vérité.
Elle n'est pas faite pour toutes. Pas tout le monde peut tenir. Non, il y a une vérité, mais tu comprends comment t'expliquer cela. C'est une histoire d'amour. Toute la relation avec Dieu, c'est une histoire d'amour. Tu as un homme, maintenant, qui aime sa femme. Bon, on lui dira, avant le mariage, par exemple, avec des Shabbat, il faut amener un bouquet de fleurs. Sinon, ça peut faire un incident diplomatique. Ok. Son anniversaire, il ne faut pas oublier. Alors, sur le mariage, il ne faut pas oublier. D'accord? Il y en a un, il aime tellement sa femme, qu'il va faire plus. Il sait, je ne sais pas moi, il sait que sa femme, trouve-moi quelque chose, d'accord? Elle adore qu'on lui fasse le café le matin au lit. D'accord? Tous les matins, il lui fait un café. D'accord? Bon, l'autre copain auquel il lui dit quoi? T'es complètement fou. Tu t'es marché dessus, tu étais un nul, d'accord? Non, moi, ça va, le bouquet et le cadeau jour du deux fois par année pour l'anniversaire de mariage, anniversaire, son anniversaire, ça suffit, basta. Alors le café obligatoire, oui ou non? La Kabbalah, tu diras, oui, comment? Pas faire un café à sa femme tous les matins, alors t'es quoi? T'aimes ta femme ou c'est ta boniche? Ah, si je dis ça, je vais faire incendier par les maris qui ne font pas le café à leur femme. D'accord, comme moi d'ailleurs. Voilà, c'est une question d'amour. Donc, la Kabbalah, elle s'adresse maintenant à ceux qui veulent se rapprocher plus de Dieu. La lachot de la Kabbalah. La lachot de la Kabbalah.
Ça veut dire que quand vous dites que les grands de la Torah peuvent créer des
cheveux, genre,
aujourd'hui, oublie, personne. Ah, il y a 2000 ans, ouais.
Mais eux, ils ont fait un travail.
Ouais.
Ça fait 2000 ans, ils ont bossé. Nous,
toi, par rapport aux conditions objectives que tu as, si tu bosses, ça équivaut à ce qu'ils ont fait, eux. Rabbeinu Ha'ari a dit un jour à Rabbi Chaim Vital, je le racontais souvent, je le répète ici, Chaim, sache que tu es grand comme Rabbi Akiva. Rabbi Chaim a dit, moi, Rabbi Akiva, quoi d'arabe, je sais bien qui c'est Rabbi Akiva et qui je suis, moi, moustique, de la patte du moustique, d'accord, sur laquelle a marché Rabbi Akiva. Il lui a dit, oui, t'as raison, t'es peut-être la patte du moustique. Mais sache qu'à l'époque de Rabbi Akiva, il y avait une lumière énorme dans le ciel, dans le monde, une proximité de Dieu très grande. Avec il était comme un projecteur. Mais un projecteur en pleine lumière, il éclaire à 50 mètres. Même pas. Projecteur à 5 mètres. Aujourd'hui, comme ça dit Rabbeinu Ha'ari il y a 500 ans à Tzfat, les ténèbres sont beaucoup, beaucoup épaissies. Les forces du mal sont très, très fortes. Et toi, qui une petite bougie de rien du tout, tu fais autant de lumière que le projecteur d'Rabbi Akiva en plein jour. Et ça, mon cher ami, c'était il y a 500 ans à Tzfat. À l'époque où il y avait qui à Tzfat il y a 500 ans. Si nous on était à Tzfat il y a 500 ans, là, on tomberait dans les pommes, asphyxiés de la sainteté qui est. Jusqu'à aujourd'hui encore, on sent la sainteté qui est là-bas à Tzfat. Et qui y avait à l'époque? Rabbi Sokaro, celui qui le Chouarnarour, Marie Bérav, son rave, l'Alkabes, le Kri Lechadodi, le Hachara Kadosh, un des trois rabbins qu'on appelait Kadosh, le Radbaz, un des grands poskim, Rabbi David Ben Zimra, Rabbi Moshe Cordovero, le rave de Kabbalah du Rabbeinu Ha'ari, Rabbeinu Ha'ari, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Lou de Vidash, celui qui écrit le Rachid Rochma, des grands noms jusqu'à aujourd'hui, tout ça, dans un petit quartier, peut-être il y avait 1000-2000 juifs à tout casser. C'était super, super sain. Et ça, Rabbi Noiri appelle les ténèbres se sont beaucoup, beaucoup épaissies. Alors aujourd'hui, un petit juif à Paris, c'est quoi les ténèbres qu'il a? Mais c'est jamais Rabbi Noiri aurait imaginé, Rabbi Chaim, c'était aussi profond. J'étais voir, j'ai un proche parent qui fréquentait une Goya. Tu vois le Rav Sternbourg, le rabbin du Badatz, là, grand rabbin, le Rav du Badatz. Ouais, un problème comme ci, comme ça, voilà, ta. Je me posais une question du genre, est-ce que si elle vient chez nous, et le vin, je ne sais plus comment c'était la question, Ayom Tov, voilà, des trucs comme ça. Il ne me répond pas. Il me dit, jamais Chazal ont imaginé que la galoute serait aussi longue. Il ne répond pas à ma question. Il se lamente, comment Chazal aurait cru que ça durait tellement, qu'on serait tellement avec les goïms, tellement qu'il aurait été de manière mixte, qu'on arriverait à une situation pareille. Voilà, un des grands d'Israël, il te dit, Chazal n'avait pas cru qu'on serait, tellement profondément dans la galoute. Je parle de la longueur de l'exil. On est très, très bas, très, très bas. Et bien, au Hachem, il y a des juifs en sort qui sont juifs, et qui maintenant, au lieu d'aller faire des études, ils viennent à l'Eshiva étudier la Torah. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est extra, c'est une lumière énorme. Et c'est évident que Machar vient pour ça. Comme il est marqué, où va l'Etzion Goel, vient à Sion, le Goel, le Rédempteur, où Shafesh Abiyak, ceux qui vont tchouva des péchés dans Israël. Bahou Adonai, l'Amen.